Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est l'Église, quatrième partie, son établissement. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, des dirigeants juifs avaient critiqué les disciples de Jésus parce que ceux-ci n'observaient pas certaines traditions de leurs ancêtres. Ces traditions concernaient des lavages cérémoniels qui n'étaient pas ordonnés dans la loi de Dieu. Selon eux, un homme se souillait s'il mangeait sans avoir fait ses ablutions. Jésus avait remarqué à ses scribes et pharisiens que, malgré le soin avec lequel ils observaient toutes les traditions des hommes, ils négligeaient les commandements de Dieu lui-même. Jésus dit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Matthieu 15, versets 7 à 14. Jésus dit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Dans le contexte, Jésus parle de religion d'origine humaine, de ceux qui enseignent et pratiquent ce que les hommes ordonnent, plutôt que ce que Dieu ordonne. Nous savons tous qu'il y a aujourd'hui une multitude de plantes, c'est-à-dire de religions, ou église. Jésus lui-même n'a promis en bâtir qu'une seule. Il dit en Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église, non pas mes églises. » Les autres que nous voyons ont évidemment été créés par de simples hommes et non par le Seigneur. Alors nous risquons de perdre notre temps, de nous dépenser inutilement, de donner notre force et notre argent pour rien. Si tout cela est pour l'avancement d'une plante d'origine humaine que Dieu lui-même va déraciner un jour. La Bible parle ailleurs, comme en 2 Pierre chapitre 2 verset 1, de sectes pernicieuses ou dangereuses qui seraient introduites par de faux docteurs, mais qui seraient sous le jugement de Dieu. Pour moi personnellement, je veux faire partie de l'Église que Jésus a promis bâtir, celle que Dieu a plantée, et qui ne sera pas déraciné un jour. Et vous, ne voulez-vous pas la même chose? Un premier trait de l'Église qui nous aidera à l'identifier, et nous examinerons plusieurs traits au cours de cette série d'études, c'est le fondateur. Les différentes dénominations, c'est-à-dire les églises que nous rencontrons tous les jours, reconnaissent généralement tel ou tel homme comme leur fondateur. Par exemple, l'église CMA, ou protestante évangélique, fut commencée par un Américain appelé Dr. Simpson. L'église luthérienne reconnaît comme fondateur celui dont elle porte le nom, l'Allemand Martin Luther. L'église méthodiste fut créée par un Anglais qui s'appelait John Wesley. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, celle dont les membres sont appelés les Mormons, doit son origine à un Américain du nom de Joseph Smith. L'église du christianisme céleste eut pour fondateur un certain Samuel Oshofa, dont un parent était nigérian et l'autre béninois. L'histoire des témoins de Jéhovah remonte à Charles Taze Russell, un Américain qui vécut au XIXe siècle. Et l'Église baptiste œuvre et mission, à l'Ivoirien Robert Dion. Quant à l'Église dont la Bible nous parle, Matthieu 16, verset 18 est très clair. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». L'Église que nous étudions n'est pas d'origine humaine. C'est le Seigneur lui-même qui est son fondateur. Aucune Église ne peut être l'Église de la Bible si elle fut fondée par toute autre personne que Jésus. Encore nous constatons une grande variété en ce qui concerne les dates et les endroits où les différentes dénominations ont commencé. L'Église adventiste du septième jour fut établie vers 1845 aux États-Unis. Les églises baptistes tracent leur origine à l'Angleterre, vers l'an 1610. L'église de l'unification fut établie par le soi-disant révérend Son Myung-moon en Corée du Sud en 1954. L'Assemblée de Dieu fut organisée en 1914 aux États-Unis. L'église Hariste en 1913 en Côte d'Ivoire. L'église anglicane en Angleterre en 1530. L'Église réformée en Suisse, également dans les années 1530, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il de l'Église de la Bible? Rappelons-nous ce que nous avons vu dans notre dernière étude, à savoir que l'Église est le royaume de Dieu, celui qui avait été promis dans l'Ancien Testament et qui est devenu une réalité au temps des apôtres. Jésus dit en Marc 1, verset 15, « Le temps est accompli ». Et le royaume de Dieu est proche. Au chapitre 9, verset 1 du même évangile de Marc, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Certainement, aucun de ceux qui ont entendu Jésus ce jour-là n'est encore en vie. Mais comme nous l'avons vu dans la dernière étude, Paul dit en Colossiens 1, verset 13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'apôtre Jean aussi confirme que le royaume fut établi de son vivant au premier siècle, car il dit en Apocalypse 1, verset 6 que Jésus a fait de nous un royaume. Non pas « il va faire de nous un royaume », mais « il a déjà fait ». Nous avons déjà signalé que dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44, Dieu avait annoncé qu'il susciterait son royaume éternel au temps des rois de l'Empire romain. Mais Dieu avait aussi précisé l'endroit où son royaume débuterait. En Ésaïe 2, versets 2 à 3, le prophète avait dit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Selon Jésus, cette prophétie était liée à la prédication de l'Évangile qui aurait lieu pour la première fois à Jérusalem. Le Seigneur dit en Luc 24, versets 46 à 47, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Pour Jésus, il était important que l'Église commence à Jérusalem. Juste avant son ascension en acte 1, il a donné des instructions très claires à ses apôtres. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Les apôtres ont, paraît-il, associé cet ordre de rester à Jérusalem et les prophéties concernant le royaume, puisqu'ils ont demandé « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus continue au verset 8 « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelques jours plus tard, en acte 2, nous voyons que toutes les conditions étaient réunies. C'était encore du temps des empereurs romains. Daniel 2, verset 44. Tous les apôtres sauf Judas étaient encore vivants. Marc 9, verset 1. Pierre identifie ce temps comme étant des derniers jours, mentionné si souvent par les prophètes. Acte 2, versets 16 et 17. Selon le verset 4, le Saint-Esprit a rempli les apôtres, conformément à la promesse de Jésus que l'Esprit et le royaume viendraient avec puissance. Les apôtres se trouvaient bien à Jérusalem. C'est à partir de ce jour que l'Église, et donc le royaume, est décrit comme une réalité présente. Acte 2, verset 47. C'était le jour et l'endroit choisi par Dieu pour l'établissement de l'Église du Christ. L'Église aurait-elle pu commencer ailleurs qu'à Jérusalem? Non, pas selon le plan de Dieu. Pourquoi? La réponse brève est parce que Dieu avait décidé ainsi. Mais nous pouvons ajouter que Jérusalem était la capitale du roi David, et Jésus est roi, au moins en partie, par sa qualité de descendant de David. Avant sa naissance, l'ange avait dit à Marie concernant son fils, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. » Et son règne n'aura point de fin. Luc 1, versets 32 et 33. Le règne de Jésus était en quelque sorte la restauration de la dynastie de David, et il convenait parfaitement qu'il se manifeste premièrement dans la ville où David avait son trône. Oui, le trône de Jésus est au ciel, mais sa loi est sortie de Jérusalem, comme Ésaïe l'avait prédit. Il n'y a donc aucun doute que l'Église dont la Bible parle a commencé à Jérusalem, le premier jour de la Pentecôte après la mort et la résurrection de Jésus, soit l'an 30 de notre ère. Puisqu'il en est ainsi, toute institution ou organisation qui a eu son commencement à un autre moment de l'histoire ou dans une autre ville que Jérusalem est distincte de l'Église du Seigneur, la plante que Dieu lui-même a plantée. La plupart des dénominations, en effet, ne prétendent pas être identiques à l'Église qui a commencé au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Tout au plus, ces églises se considèrent comme étant des branches de l'Église dont nous lisons dans la Bible. Elles essaient parfois de justifier cette idée en parlant de Jean 15, verset 5, où Jésus dit « Je suis le tronc et vous êtes les branches ». Mais le contexte montre clairement que Jésus ne parlait pas de dénomination, mais de disciples. Il identifie les sarments ou branches comme des individus, et non comme des groupes ou des organisations. Jésus et ses apôtres n'ont pas laissé de place dans leur enseignement pour la création d'églises qui seraient, par leur croyance, leur nom et leurs pratiques, distinctes les unes des autres ou distinctes de l'église que Jésus a bâtie. La Bible parle de sectes, de divisions et d'apostasie, des choses qui sont toutes contre la volonté de Dieu. Quand des assemblées reconnaissent un homme à part Jésus comme fondateur, quand elles acceptent l'idée que leur association a débuté dans telle ville autre que Jérusalem, ou qu'elle date de tel moment de l'histoire après le jour de la Pentecôte de l'an 30, elles admettent par là qu'elles sont autre chose que l'Église qui avait été prophétisée, que le Seigneur a créée, qu'il a rachetée par son sang et qui ne sera jamais déracinée. Ces églises d'origine humaine n'ont pas raison d'être. La Bible ne nous demande nulle part d'y adhérer. Nous pouvons être chrétiens tout simplement et nous regrouper en assemblée en suivant le modèle qui est conservé pour nous dans le Nouveau Testament. Cela ne fera pas de nous une nouvelle église, une dénomination. Cela fera de nous des assemblées locales de la véritable église, celle qui fut promise et bâtie par Jésus lui-même.
Donne gloire, honneur, sagesse à l'Éternel Jéhovah.
force, puissance et richesse, à Dieu l'Alpha, l'Oméga. Louez Dieu, vous ciel et terre, chérubins et séraphins. Louez l'Omnipotent Père, le commencement, la fin. Gloire, honneur, force et puissance, à Dieu l'Alpha, l'Oméga. Louez sa magnificence, louez sa magnificence, donnant tout, tous obéissance à l'Éternel Jéhovah.